L'actualité des idées dans la deuxième partie de la grande table. Stop à la statistique avec le philosophe et mathématicien Olivier Rey, essayiste chargé de recherche à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, prof de philosophie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Auteur précédemment d'une question de taille où vous estimiez, Olivier Rey, qu'à force de vouloir créer un monde disproportionné par rapport à notre taille humaine, on crée plus de problèmes qu'on en résout, dans la lignée du philosophe et économiste autrichien Leopold Korr, qui dénonçait notre culture et notre culte plutôt de la grandeur. Small is beautiful. Partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. Bonjour à vous, Olivier Rey.
Bonjour.
Vous nous revenez avec Quand le monde s'est fait nombre, votre cinquième essai. Vous y dénoncez et analysez l'omniprésence de la pensée chiffrée, les statistiques comme clé de nos sociétés, qu'elles prennent la forme de courbes, de taux, de graphiques, courbes du chômage, chiffres de la croissance, classement PISA de nos écoles. Partout, le monde s'est fait nombre. Alors à quand remonte cette obsession du chiffre? Que dit-elle de notre manière d'appréhender le monde et de vivre avec nos semblables? Autant de questions que vous déroulez et auxquelles vous tentez de répondre dans cet essai qui vient de paraître donc aux éditions Stock. Mais d'abord, question préalable avec vous, comme chaque midi, comment allons-nous, Olivier Rey, à vos yeux, de philosophe ou de mathématicien?
Oh, de citoyen tout simple, j'aimerais beaucoup vous dire que nous allons très bien. L'honnêteté me pousse à dire quand même que nous ne sommes pas vraiment en très très bonne forme. En même temps, je me rappelle toujours d'une chose, c'est que je pense que depuis qu'il y a des êtres humains sur Terre, ça n'a jamais vraiment été. Donc je pense qu'effectivement nous avons des très graves problèmes devant nous aujourd'hui, mais que c'est le lot de l'humanité de toute façon, à toutes les époques, d'avoir toujours eu affaire à des problèmes très grands, et que les hommes sont faits justement pour affronter les problèmes.
Et qu'ils ont peut-être de la ressource.
Oui, ils ont d'immenses ressources.
Benoît Boscarel.
Quand Barack Obama disait il y a quelques jours, aujourd'hui, les temps qu'on est en train de vivre sont les temps peut-être les meilleurs à vivre pour l'espèce humaine, est-ce que vous souscrivez? Ça a évidemment indiqué que c'est aussi des défis à relever, évidemment.
C'est la version optimiste qui consiste à penser que ce sera pire demain, en fait. Hein.
Oui, non, enfin, le je pense que à chaque génération, il revient de vivre dans le monde qui lui est donné, d'affronter les questions qui lui sont posées. Donc, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas moins bien? Je peux absolument pas me prononcer sur ce plan-là. En revanche, votre question, la question que vous avez posée, comment allons-nous, me fait venir à l'esprit une autre question. Ce serait comment va le nous? Et je dirais peut-être que c'est de ce point de sur cette question-là qu'on a un grave problème aujourd'hui, c'est précisément la question du nous. Et d'ailleurs, on le voit dans des sondages, vous allez me dire que je fais tout de suite appel à de la statistique, mais enfin dans des sondages, il y a une sorte de contraste entre la manière qu'ont les personnes d'évaluer la situation générale, où ils se montrent extrêmement pessimistes, et ils sont moins pessimistes ou plus optimistes quant à leur situation particulière, enfin selon la statistique. Et je pense que ça décèle précisément un problème spécifique qui est le problème du nous, c'est-à-dire comment faisons-nous société, donc pas simplement la manière que l'on a de vivre soi-même, mais de s'insérer à l'intérieur du groupe.
Et alors aujourd'hui, hélas, d'après vous, on l'a fait en partie, cette société, on fait société à travers le regard de la statistique, Olivier Rey, un mathématicien, parce que c'est quand même de là que vous venez, qui s'en prend au nombre, aux chiffres, c'est un peu le monde à l'envers. Quel est votre rapport, vous, au nombre? Clarifiez vos positions avant
votre démonstration. Je ne m'en prends pas à la statistique. Ce que je suis parti d'abord d'un constat que absolument tout le monde peut faire, c'est l'omniprésence de la statistique dans notre monde. Et le fait que notre rapport au monde aujourd'hui est médiatisé par des données statistiques. Quelque chose qui est absolument extraordinaire, à mon avis, sur lequel on n'a pas assez réfléchi, c'est dans les années 90, quand le traité de Maastricht a été signé, pour la première fois dans l'histoire, des États se sont liés par des traités qui est reposé entièrement sur des données statistiques. Des taux d'inflation, des taux d'endettement, par rapport au produit intérieur brut, etc. Donc en fait, là, on voit que même le droit international, en fait, s'exerce sur des données statistiques. Puis il y avait un autre exemple qui m'avait assez amusé, c'était la courbe du chômage la célèbre courbe du chômage de François Hollande. Et bon, on a beaucoup glosé là-dessus, il y a une très grande habileté politique, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a quand même quelque chose qui est manifeste et qu'on n'a pas relevé, me semble-t-il, c'est que le président de la République, le candidat puis président, au lieu de parler des chômeurs, a parlé de la courbe du chômage.
C'est-à-dire que François Hollande a promis, s'il est élu, d'inverser la courbe du chômage plutôt que de remettre les hommes et les femmes sur le marché.
Que de réduire le nombre des chômeurs. Ouais. Bon. Et le fait que finalement ce genre de choses soit parfaitement accepté dans l'espace public montre à quel point nous avons appris à juger du monde, non pas par ce que nous en percevons directement, mais à partir d'un certain nombre d'indicateurs statistiques.
Hein. Quand le monde s'est fait nombre, c'est donc le titre de votre essai, Olivier Rey. Qu'est-ce qui fait statistique de nos jours? Tout, répondez-vous.
Alors on a appris que le trou de la Sécu serait quasiment rebouché en 2017.
L'économie française a fait marche arrière au deuxième trimestre pour la première fois depuis début 2013. Selon la troisième estimation de l'INSEE, le produit intérieur brut a reculé de 0,1% sur la période.
Si les dépenses augmentent, c'est en partie à cause de la hausse du nombre de bénéficiaires du RSA. Plus 10% par an dans les Yvelines.
La plus forte hausse depuis plus de 3 ans. Au mois d'août, le nombre de chômeurs sans aucune activité augmente de 50 200, soit une hausse d'1,4%.
Jour J pour plus de 12 millions d'élèves aujourd'hui. 7 millions sont en école maternelle et primaire, 3 millions dans les collèges et un peu plus de 2 millions dans les lycées.
Une dette française qui augmente à une vitesse vertigineuse. Rien que sur le premier trimestre de 2015, elle s'est alourdie de 51 milliards 600 millions d'euros.
Florilège de chiffres et de statistiques, Olivier Rey, on peut inverser la question. Qu'est-ce qui ne fait pas statistique aujourd'hui? C'est un grand silence.
les êtres humains que nous sommes individuellement auraient tendance à dire l'essentiel, justement. C'est bien ça.
Il reste des espaces qui échappent à la statistique.
Oui, et puis c'est le malaise que l'on a vis-à-vis de la statistique, c'est qu'à la fois on constate son omniprésence et que d'autre part on a l'impression que l'essentiel lui échappe. On est pris dans cette tenaille. Et moi, ce qui m'a intéressé, la raison fondamentale pour laquelle je me suis intéressé à ce sujet, c'est précisément essayer de comprendre pourquoi la statistique, qui fondamentalement n'est pas aimée, en arrive malgré tout à occuper cette place colossale qu'on lui connaît. Donc, est-ce que c'est une fatalité? Pourquoi? À quelle nécessité répond cette présence de la statistique, alors même que la plupart des personnes interrogées sur la statistique auront plutôt un avis négatif sur elle.
Et une fois encore, ce n'est pas la statistique que vous incriminez dans cet ouvrage, mais notre impuissance à la mettre parfois de côté. Benoît Bouscarel.
Est-ce que son omniprésence à la statistique est due aux politiques, au monde politique? C'est un peu ce qu'on pouvait retirer du montage qu'on vient d'entendre.
C'est-à-dire que quand je me suis mis à étudier cette question, en fait, la première évidence massive à laquelle j'ai été confronté, c'est le fait que cette appétence pour la statistique, d'abord, elle a une longue histoire, une histoire à peu près aussi longue que la modernité européenne, et que le grand essor statistique, finalement, il est pas si récent que cela, parce que c'est dans la première moitié du 19e siècle que véritablement les sociétés européennes se lancent dans la statistique. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a Philippe Muret qui a écrit un livre qui s'appelle « Le 19e siècle à travers les âges » et qui soutient que le 19e siècle est le siècle fondamental pour comprendre notre époque, parce que finalement, le 20e siècle et ce début du 21e siècle et la continuité de ce qui s'est noué au 19e siècle, et en particulier pour la statistique, en tout cas, c'est extrêmement net. Donc, à partir du moment où c'est dans la première moitié du 19e siècle, surtout dans les années 1820-1830, qu'il y a eu cet énorme essor statistique, je me suis posé la question de savoir quelles étaient les circonstances particulières à cette époque qui avaient entraîné cette efflorescence statistique.
Et alors vous soulignez ou surlignez deux raisons principalement. Il y a le politique, Benoît Bouscarel parmi elles. Il y a d'abord l'idée que la société s'est atomisée quelque part et que plus la société s'est individualisée, plus l'activité statistique a pris de l'ampleur justement au 19e.
C'est-à-dire que ça va être la conjonction d'une évolution des mentalités et d'autre part d'une évolution beaucoup plus matérielle. Dans l'évolution des mentalités, il y a un retournement qui va se produire à l'époque moderne, avec la prééminence qui va être donnée à l'individu. L'individu, d'ailleurs, c'est un mot qui est extrêmement intéressant. Quand on y réfléchit, ça veut dire qu'il ne se divise pas. C'était la traduction en latin de l'atomos grec, ce qui est impossible à couper. Donc désigner une personne humaine comme étant quelque chose qui est impossible à couper, c'est un peu bizarre. C'est pas la première chose à laquelle on pense quand on voit quelqu'un. Mais en fait, au départ, si vous voulez, ce qui existait, c'était des communautés. Et l'individu n'existait qu'en tant que membre d'une communauté. Alors quand on partait d'une communauté, eh bien en fait on pouvait subdiviser la communauté en sous-communautés, etc. Et puis au bout d'un moment on arrivait à l'individu, c'est-à-dire le terme de ce processus de division. Et à un moment donné, à partir du XVIIe siècle, disons, il va y avoir un retournement, c'est-à-dire qu'on va considérer que l'individu qui était le terme d'une division va devenir la brique élémentaire à partir de laquelle on va reconstruire le tout. Il y a une formule que j'aime bien qui résume un peu le processus, c'est-à-dire que autrefois le « je » était le singulier du « nous », alors que désormais le « nous » est le pluriel du « je ». Voilà. Donc d'abord on partait des communautés et on existait en tant qu'individu comme membre d'une communauté, alors qu'ensuite on existe d'abord en tant qu'individu, et c'est la réunion des individus qui forme ce qu'on va appeler justement une société.
Et alors comment l'État va se positionner par rapport à ça? Et c'est peut-être là qu'on peut trouver, dans cette transformation politique, la réponse à la question de Benoît Bouscarel.
C'est-à-dire qu'il va y avoir, ça c'est une évolution, comme je l'ai dit, philosophique et dans les mentalités. Et puis il va y avoir deux grands événements qui vont se produire fin 18e, début 19e siècle. C'est d'une part la révolution politique, qui a son foyer en France, mais qui va se répandre aussi dans toute l'Europe, et puis la révolution industrielle, qui a son foyer en Angleterre, et qui va également se répandre dans toute l'Europe. Et c'est les révolutions politiques et la révolution industrielle qui va, dans les faits, dynamiter complètement toutes les communautés traditionnelles, et précisément faire passer l'humanité dans un autre régime, qui est celui des grandes sociétés d'individus. C'est là aussi au cours du XIXe siècle où se constituent les grandes villes, il y a l'exode rural et on va expérimenter des modes de vie qui étaient totalement inédits dans l'histoire de l'humanité. Et là, tout d'un coup, les êtres humains vont se retrouver à vivre dans un contexte qui leur était totalement inconnu et ils ne savent absolument plus s'y reconnaître. Et l'essor statistique va répondre à une grande interrogation, c'est dans quel monde vivons-nous ? Et en fait, il va y avoir d'une part un aspect politique, puisque justement, les gouvernants ne savent plus à quel monde ils ont affaire. Donc, ils ont besoin de données statistiques pour essayer de gérer ce nouveau monde. Et puis, les citoyens sont eux-mêmes avides de données statistiques pour essayer eux-mêmes de se situer par rapport à ce monde dans lequel ils sont insérés.
Alors le roi est nu et la statistique vient quelque part rhabiller l'État. Ce qui est intéressant, vous racontez qu'au XIXe siècle, dans ce déluge de statistiques, de chiffres, de nombres qui s'abat sur l'Europe, il y en a quand même quelques-uns pour faire un peu la grimace, si ce n'est rire, voire se railler de cette explosion statistique. C'est-à-dire que leur arrivée n'a quand même pas toujours été bien accueillie ou c'est pas fait innocemment.
Ah non, mais bien sûr, il y a eu énormément, alors d'une part, des critiques dans tous les domaines. Dans tous les domaines où la statistique est entrée, il y a eu des critiques en politique, en économie, en médecine, etc. Et puis évidemment, il y a eu aussi en littérature une résistance à cet esprit statistique et donc beaucoup de raillerie contre cette multiplication de statistiques. Mais cela étant, bon, toutes ces résistances et toutes ces railleries n'ont pas empêché du tout le mouvement de
ce déferlement de statistiques.
Ce déferlement, non.
Et comment ont réagi les sciences humaines et notamment la sociologie, qui est quand même la science des faits sociaux. Est-ce qu'elles ont tout de suite adopté les statistiques ou est-ce qu'il y a eu un mur quelque part de protestation
contre ces chiffres ? Non, ça a été une histoire assez compliquée. Bon, la sociologie au début du XIXe siècle n'existait pas. C'est un néologisme d'Auguste Comte. C'est lui qui a inventé ce terme. Et son premier terme, d'ailleurs, c'était pas sociologie, c'était physique sociale. Et puis voilà qu'en Belgique, il y a un statisticien, Adolphe Quetelet, qui s'est emparé de ce terme de physique sociale et qui a prétendu rendre compte de toutes les réalités humaines à partir de données statistiques. Alors, Adolphe Quetelet, ça a été un il est très oublié aujourd'hui, mais ça a été un très très grand promoteur de la statistique au XIXe siècle, et en particulier de la biométrie. L'indice de masse corporelle qui a pris une très grande importance aujourd'hui, par exemple, c'est Adolphe Quetelet qui l'a inventé. Hein. Ça correspond, on prend notre poids en kilos et on le divise par notre taille en mètres au carré. Et ça nous donne un indice qui est en gros entre 15 et 40. Et quand on est dans une certaine plage, ça va. Quand on est en dessous, on est trop maigre. Quand on est au-dessus, on est trop gros. Et en fait, c'est un indice qui a pris tout de suite beaucoup d'importance parce que les compagnies d'assurance se sont rendues compte qu'on pouvait corréler l'indice de masse corporelle ou l'indice de Quetelet, donc avec l'incidence de certaines maladies, avec l'espérance de vie. Et donc, évidemment, ça devenait un indice qui avait une valeur économique. Mais et donc Quetelet, en fait, a eu l'idée qu'on allait pouvoir connaître, on allait pouvoir jeter des lumières sur le mystère humain en accumulant des données statistiques. Et alors Auguste Comte, lui, qui a abandonné ce terme de physique statistique qui lui avait été pris par Quetelet, donc a créé le néologisme sociologie en lui voulant complètement évacuer la sociologie.
Donc il forge la sociologie dans un rejet quand même de la statistique.
Voilà, exactement. Et après, il va y avoir tout un grand débat qui va toujours traverser les débuts des sciences de l'homme sur l'usage des statistiques. Et quelqu'un qui sera très important pour à cet égard-là, ce sera Durkheim, qui à la fin du 19e siècle, quand il écrit sur le suicide, évidemment, utilise les statistiques du suicide pour écrire son livre, mais enfin se rend compte également qu'il y a un certain nombre de réalités humaines qui échappent totalement à la statistique. Et donc Durkheim est un peu à la charnière de cette évolution des sciences humaines vis-à-vis des statistiques.
Benoît Bouscarel.
Oui, si on vous comprend bien, au départ, la statistique est donc un outil de compréhension du monde, d'abord et avant tout un outil de compréhension du monde et de la société. On a l'impression qu'aujourd'hui, quand vous parliez là de benchmarker la bonne forme avec le poids, l'indice, etc., on a l'impression que maintenant c'est un outil plutôt de gestion, un outil de décision, presque un outil de contrôle même de la société. La statistique, est-ce qu'il y a eu un passage
D'emblée, la statistique a quand même eu un aspect gestionnaire, parce que ça s'est d'abord développé dans les milieux gouvernementaux. En fait, ce qui se passe sous l'Ancien Régime, les gouvernements n'auraient pas demandé mieux que d'avoir beaucoup de statistiques. Mais ils avaient deux problèmes. Ils avaient une administration insuffisante, parce qu'il faut collecter les données, et donc il n'y avait pas l'administration qu'il fallait pour collecter les données. Et puis deuxièmement, l'Ancien Régime se mettait en danger idéologiquement en faisant trop de statistiques, parce que s'il allait sur le terrain quantitatif, ça voulait dire qu'on comptait les gens, et quand on comptait les gens, ça faisait d'autant plus apparaître qu'il y avait une toute petite minorité de privilégiés par rapport à une masse de non-privilégiés. Donc en fait, faire de la statistique pour l'Ancien Régime, c'était quelque chose d'extrêmement dangereux.
Aujourd'hui, on est dans une situation complètement inverse. On parle de big data, d'open data, enfin les données, là, pour le coup, statistiques, elles abondent et qui on veut en trouve, et peut-être à foison. Est-ce qu'on n'est pas dans l'excès inverse, j'allais dire, pour le politique, trop de données, d'informations et trop de statistiques finalement qui
permettent pas de... J'avais relevé ça, c'est sur un site américain qui s'appelle careercast.com, qui établit chaque année un classement des professions en fonction de différents critères, dont les chances de recrutement, le salaire, les perspectives de carrière, etc. Et cette année, en 2016, on trouve en tête du palmarès l'emploi de data scientist, donc littéralement scientifique des données, mais les entreprises françaises ne traduisent pas, et suivi par celui de statisticien. Et le site commente, la demande élevée en data scientist et statisticien vient de l'importance croissante accordée à la collecte et à l'évaluation de quantités massives de données.
Voilà. Un métier d'avenir, en fait.
Voilà, c'est vraiment.
La statistique.
C'est vraiment. Mais maintenant, effectivement, enfin, anciennement, le gros problème qu'on avait, c'était qu'on n'avait pas assez de données. En fait, aujourd'hui, maintenant, on a une telle forêt de données que ce qu'il faut, c'est essayer d'extraire des données pertinentes à travers cet océan de chiffres.
Ne pas se noyer. Olivier Reff, philosophe et mathématicien, et notre invité pour son essai « Quand le monde s'est fait nombre », France Culture, il est 13h15.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Inflation de chiffres et paradoxe que vous soulignez, Olivier Rey, après nous avoir expliqué un peu à quand remonte cette quantification du réel que vous appelez également nombrification. C'est notre mise en accusation des statistiques, trop réductrices, sans nuances. Mais quand on veut en donner une idée plus riche, on use encore de statistiques. Et c'est ça la folie humaine. On s'emploie à corriger les défauts de la statistique, écrivez-vous, en étendant son domaine d'application. On est sacrément atteint finalement, Olivier Rey.
Oui, mais en fait, justement, en étudiant cette question, en fait, je me suis rendu compte que vraiment la statistique nous colle à la peau parce qu'elle est un peu inhérente à la façon que nous avons précisément de faire société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où précisément on a mis l'individu au départ, eh bien, et qu'on conçoit la société comme un rassemblement d'individus, eh bien, la manière naturelle d'analyser ce que c'est que cette société, eh bien, c'est d'additionner les réalités individuelles. Et donc la statistique devient l'outil naturel, on pourrait dire, pour rendre compte de la réalité sociale.
Mais alors,
telle que nous la concevons. Et c'est justement ça, des découvertes, on pourrait dire, d'une certaine sociologie, c'est de se rendre compte que la société, c'est bien autre chose que le simple rassemblement d'individus.
Alors justement, concrètement, par quoi pourrait-on la remplacer pour rester fidèle ou être plus fidèle à la réalité?
Ah ben là, en fait, cette étude, elle a quand même une forme de continuité avec mon étude précédente qui s'appelait une question de taille. C'est-à-dire que je pense que si on souhaite réellement réduire la place de la statistique, il faut aussi que l'on apprenne à vivre dans des ensembles structurés à des échelles plus réduites. Voilà, c'est-à-dire que historiquement, on voit que c'est l'explosion des anciennes communautés de vie qui a créé ces grandes sociétés d'individus, qui a appelé le développement de la statistique. Donc réciproquement, si on veut moins de place à la statistique, il faut aussi se rendre compte que l'échelle à laquelle de nos sociétés est sans doute trop grande.
Question de Benoît Bouscarel.
C'est sans fin cette histoire, parce qu'on nous parle de remplacer éventuellement le sacro-saint PIB d'un pays par peut-être un indice pour changer un peu la vie et pour changer justement les méthodes politiques, par un indice du bonheur, mais du bonheur des gens donc dans cette société, mais ça reste un indice.
Ah oui, non mais c'est pour ça que si vous voulez, là, ce qu'on fait, c'est on essaye de corriger ce qu'on trouve insuffisant aux statistiques par plus de statistiques. C'est pour ça que je dis que si on veut véritablement être cohérent, il faut se rendre compte que, si vous voulez, la statistique aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui nous tombe de l'extérieur dessus et dont on pourrait se débarrasser. C'est quelque chose qui est vraiment inhérent au fonctionnement de nos sociétés. Et ce qui les rend inhérents au fonctionnement de notre société, c'est que, si vous voulez, l'État moderne s'est constitué en détruisant, en fait, à peu près toutes les formations intermédiaires entre lui et les individus. En fait, aujourd'hui, on voit beaucoup une opposition entre l'État et l'individu. Mais il faut voir que, en fait, avant d'éventuellement peser sur l'individu, l'État a été son libérateur, puisque, en fait, auparavant, l'individu, il n'existait qu'en tant que membre de communauté. Et l'État moderne, il s'est employé à détruire toutes ses appartenances communautaires pour ne plus laisser qu'un face-à-face entre l'État et l'individu. Mais à ce moment-là, évidemment, quand il n'y a plus que ce face-à-face, l'État, face à cet océan d'individus, que voulez-vous qu'il fasse sinon compter ? Voilà, c'est-à-dire que à ce moment-là, la statistique devient inévitable. Et en plus, il y a une très grande ambiguïté des citoyens, parce que d'un côté, on se plaint d'être gouverné par les nombres, en disant voilà, on n'est pas pris en compte, l'État ne prend pas en compte la réalité. Mais en même temps, si l'État gouvernait sans les nombres, on serait dans une colère folle en disant mais vous êtes complètement arbitraire, subjectif, etc. Ouais,
et tout le monde est habile de sondage.
Et donc en fait, justifier votre action par des nombres. Et donc là, c'est là la très grande ambiguïté. Et c'est pour ça que quand vous disiez j'étais contre la statistique, ma position n'est pas exactement celle-là. C'est-à-dire que je regrette que la statistique ait une telle place, mais en même temps, je ne vois pas ce règne de la statistique comme étant quelque chose qui nous serait, par exemple, imposé par des méchants politiques. En fait, c'est quelque chose à laquelle nous participons tous. Et le citoyen est lui-même demandeur de statistiques dont après il se plaint.
Alors, il y a effectivement certains de vos confrères qui sont plus critiques que vous face à cette numérisation. Justement, vous avez bien dit nombrification du monde et pas numérisation, qu'il s'agit de collecter plutôt les données. Certains de vos confrères, comme Alain Supiot du Collège de France, dans son ouvrage « Gouverné par les nombres », mais également par la philosophe Barbara Cassin dans « Derrière les grilles », un ouvrage qui est paru en 2014 dans cet essai, elle est très critique envers cette inclinaison de notre société à tout faire rentrer justement dans des grilles. Et pour elle, cette classification, cette évaluation permanente dans tous les champs de notre vie est inopérante et surtout, elle est dangereuse. Pour la citer, elle écrit « Pour comprendre ce qui ne va plus, ce qui ne doit pas continuer, il faut s'intéresser à l'outil universel de l'évaluation, les grilles. Nous, citoyens, administrés, professionnels, étouffons derrière les grilles. Il faut coûte que coûte entrer dans des cases. Il faut réduire chacun de nos actes à une série d'items pour qu'ils soient quantifiables, performants. Ce que nous faisons les uns et les autres n'a plus de sens. Nous ne reconnaissons plus nos vies dans la représentation du monde ainsi formaté. Les grilles produisent un monde surveillé qui élimine toute invention. Inventivité, toute nouveauté, tout espace de liberté. Un monde mort, en somme.
Elle a...
Olivier Rey. Je vous ai appelé Alain Rey.
je souscris entièrement à ce qui est dit. Ce que je rajouterais simplement, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas avoir le monde dans lequel nous vivons sans la statistique. C'est-à-dire que la statistique, c'est pas juste quelque chose dont on pourrait se débarrasser en laissant le reste en l'état. La statistique, encore une fois, ça n'est pas comme une tumeur, si vous voulez, qui se serait développée sur un corps sain, et puis on opérerait la tumeur, et puis il resterait le corps sain. C'est-à-dire qu'elle s'est développée en symbiose avec un certain état de la société. Et donc moi je suis d'accord pour critiquer ce règne de la statistique, mais je dis que si on veut véritablement être conséquent, vous savez, c'est la grande phrase de Bossuet, hein, le ciel se rit des prières qu'on lui adresse pour nous débarrasser de mots dont on continue de chérir les causes, quoi. Enfin, voilà. C'est-à-dire que ça demanderait justement des changements extrêmement profonds.
Il y a la question de savoir si les statistiques disent vrai ou est-ce qu'elles mentent aussi parfois, Olivier Rey. Comme les sondages, on a le sentiment qu'avec les statistiques, tout reste question d'interprétation. Est-ce que pour vous, les nombres sont quand même encore souvent instrumentalisés? Alors là, j'en reviens à la question de Benoît Bouscarel, à des fins politiques. Est-ce qu'ils sont finalement plus facilement manipulables, d'où leur intérêt, que la réalité, notamment la réalité ressentie?
Oui, bien sûr. Si on voulait vraiment être méchant, par exemple, sur la question de la courbe du chômage, quand on promet d'inverser la courbe du chômage plutôt que de diminuer le nombre de chômeurs, on pourrait dire que parce qu'en fait, la courbe du chômage, d'une certaine manière, on peut la trafiquer, quoi. Le nombre de chômeurs, il est ce qu'il est. Les chômeurs, ils sont ce qu'ils sont. Alors qu'une courbe, justement, on va pouvoir travailler dessus.
Et de la même manière qu'on peut radier de Pôle emploi des demandeurs d'emploi, ça fera baisser les chiffres ou la statistique.
Traitement statistique
ça ne veut
chômage,
pas dire pour autant
quoi,
que les hommes ou les femmes vont retrouver
bien
un
sûr c'est la célèbre blague qui est attribuée à tort d'ailleurs à Disraeli, mais peu importe, à la fin du 19e siècle, le premier ministre anglais qui disait qu'il y avait trois sortes de mensonges: les lies, damn lies and statistics. On pourrait dire les mensonges, les gros mensonges et la statistique. Bien sûr. Mais en fait, là encore, on a un rapport très ambigu à la statistique. Parce que, en réalité, pour qu'une statistique soit vraiment signifiante, il faudrait qu'elle nous soit donnée avec ce qu'on appelle, en langage technique, les métadonnées, c'est-à-dire la méthode qu'on a utilisée pour collecter les nombres, pourquoi on a sélectionné tel item plutôt qu'un autre, etc. Donc il faudrait tout cet appareil de pré-formatage qui nous permettent d'interpréter correctement les nombres qui nous sont délivrés. Par exemple, quand on a une statistique du chômage, il faudrait qu'on ait sous les yeux tout ce qu'on appelle pourquoi on appelle telle personne chômeur et telle autre pas, où on met la limite, pourquoi on met la limite ici, etc. Bon. Mais en même temps, ce qui fait l'intérêt d'une statistique, c'est précisément qu'elle nous donne un résultat brut indépendamment de ses métadonnées. Parce que si elle nous était livrée avec toutes les métadonnées, en fait, elle perdrait tout son intérêt parce que ça nous prendrait tellement de temps de regarder ce qu'il en est vraiment. Et donc là encore, on voit toute notre ambivalence vis-à-vis de la statistique parce qu'on lui reproche de simplifier le monde. Mais en fait, tout ce qui fait l'intérêt de la statistique, c'est qu'elle le simplifie justement. Parce qu'on est dans un monde extrêmement complexe auquel on ne comprend pas grand-chose. Et tout d'un coup, la statistique, elle va nous dire, elle va nous donner un nombre. Voilà, et donc c'est bien pratique aussi.
Alors je citais Olivier Rey à l'instant la présentation du livre de Barbara Cassin, Derrière les grilles, lecture complémentaire à votre ouvrage. Présentation qui se termine par « Ne restons pas plus longtemps enfermés derrière les grilles d'évaluation ». Vous suggérez aussi de changer d'attitude, de posture par rapport à cela. On sait qu'on va pas pouvoir jeter demain toutes les chiffres et toutes les statistiques. Alors que faire? Vous nous dites « On peut déplorer cette omniprésence, mais en ce cas, ce n'est pas la statistique qui est à incriminer, ce sont nos façons d'habiter le monde et de vivre avec nos semblables qui seraient à changer.
Ben oui. »
Jolie conditionnelle, comment fait-on?
Ben, en fait, vous voyez, vous aviez commencé l'émission en demandant comment allez-vous, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste. Enfin, je trouve qu'actuellement, bon, peut-être les choses ne vont pas très bien, mais finalement, j'ai une sorte d'optimisme qui naît de ce pessimisme, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est au seuil de bouleversements majeurs. Et que beaucoup de choses qui aujourd'hui nous paraissent impossibles, il se peut très bien que dans quelques temps, d'ici quelques années, en fait, ça devienne possible. Parce que justement, on voit, on n'est que sur une trajectoire où, si on poursuit la trajectoire, on a l'impression que ça va très mal se passer. Mais justement, c'est aussi qu'on rentre dans des zones de turbulence où tout d'un coup, l'éventail des possibles peut se rouvrir énormément. Et j'ai l'impression, par exemple, qu'un certain nombre de structures qui aujourd'hui sont très très flageolantes, si elles s'effondrent, eh bien, on peut dire « Ah, c'est une catastrophe parce que ça s'effondre », mais leur effondrement permet sans doute aussi l'émergence de nouvelles manières de vivre aussi.
Et alors, si ce ne sont pas dans les chiffres, dans les statistiques, où le philosophe que vous êtes, Olivier Rey, recommande-t-il d'aller chercher cette autre manière de réhabiter, d'habiter tout simplement le monde? Dans la littérature qui échappe, dans cette haine amour qui échappe aux statistiques, dans la philosophie?
Oui, et puis simplement dans le contact avec ses semblables. Justement, quand je pense à l'université, puisque voilà, c'est un milieu que je connais un peu, il faut essayer justement de résister. Parce que les universitaires se plaignent, mais en même temps, ils ont été aussi très dociles pour remplir les grilles. Donc c'est aussi à eux de ne pas les remplir, c'est aussi à eux de s'organiser entre collègues sur des bases justement d'échanges directs et non pas de rapport d'évaluation, enfin voilà, c'est aussi dans la vie quotidienne.
Hein. Benoît Bouscarel, une question pour finir, 30 secondes, c'est statistique.
Le problème vient peut-être aussi, et vous allez donner votre avis là-dessus, Olivier Rey, du coup, en conclusion, le problème vient peut-être aussi de ce culte de l'obligation de résultat, de la performance auquel on est soumis, plutôt que de la statistique.
Bah, c'est-à-dire que les deux sont extrêmement liés. Mais justement, le culte de la performance, il croit aussi sur le dépérissement des relations humaines. Parce que quand on parle avec quelqu'un, on n'est pas dans la recherche de la performance. À partir du moment où on lui parle plus, effectivement, on va le considérer comme une entité et puis on va le faire rentrer dans des grilles.
C'est le quantitatif qui prend le pas sur le qualitatif, mais ça n'a pas été le cas durant cette demi-heure. Merci beaucoup, Olivier Rey.
C'est moi qui vous remercie.
J'essaye une dernière fois de bien le prononcer. Quand le monde s'est fait nombre, c'est un titre pas facile à traduire à la radio. Un essai qui vient de paraître chez Stock. Merci mille fois à vous et à toute l'équipe de la Grande Table qui m'a une fois encore accompagnée en ce début de semaine. Claire Bayot, Clémence Marie, Jean-Christophe Brianchon, Henri Leblanc et Inès Magriffe. Sur la file des réseaux sociaux, Farah Keram, qui vous pouvez pouvez laisser également vos messages sur le site, à la page de l'émission sur le site de franceculture.fr, où vous pouvez également nous télécharger. À la réalisation ce midi, Perret Legras avec Pierrick Monsigny. Demain, un chorégraphe, Boris Charmatz dans la première partie de la Grande Table, et l'essayiste Marielle Masset pour son ouvrage Style dans la seconde partie.